L'école du micro d'argent.
1, 2, 3, got me?
Les ateliers de radio MDM avec le lycée professionnel agricole de Mugron. La classe de première SAPAT, service aux personnes et aux territoires. Rencontre, interview avec des professionnels. L'école du micro d'argent sur les ondes en podcast sur Radio MDM.
Bonjour, je suis Valérie Coutil, je travaille au Jardin de l'Honneur, qui est un service du conseil départemental. Je suis coordinatrice de mise à disposition en milieu ordinaire, donc ça veut dire que j'accompagne des gens en situation de handicap qui sont en ESAT, mais qui travaillent à l'extérieur en vue d'une insertion.
Pouvez-vous nous présenter votre métier et depuis quand le faites-vous ?
Alors, le métier, c'est coordinatrice de mise à disposition. Mon diplôme, c'est éducatrice technique spécialisée pour faire ce travail. Et mon travail, je le fais depuis 22 ans et demi, maintenant celui-là, d'éducatrice. Donc là, mon métier, c'est d'accompagner des ouvriers en situation de handicap qui ont une orientation qui est donnée par la MLPH, Maison Landaise pour le Handicap, en ESAT. Et du coup, moi, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on reconnaisse leur handicap et qui ont besoin d'aller travailler ou qui veulent aller travailler en milieu ordinaire, qui ne veulent pas intégrer une structure ESAT ou qui veulent en sortir. Et donc, moi, mon travail, c'est de trouver une entreprise qui cale avec leurs attentes et leurs capacités et de faire en sorte que ça tienne et qu'ils aillent vers une embauche comme tout le monde.
Quel type de handicap rencontrez-vous dans votre métier ?
Alors, tous les établissements ont une spécificité d'accueil et au Jardin de l'Honneur, c'est plutôt du handicap psychique, des troubles du spectre autistique, TSA, vous avez dû en entendre parler, ou de la déficience. Mais parfois, il y a des handicaps associés, hein, tout est possible. Hein. On n'est pas tellement équipé et on n'a pas tellement de métier pour le handicap physique, voilà, ou handicap physique léger.
Quelles études avez-vous faites ?
Alors, j'ai commencé ma vie professionnelle plutôt dans l'agricole et le para-agricole. Donc, j'ai fait un BEPA jardin-espace vert, un BTA jardin-espace vert, un BTA arboriculture fruitière. Et après, comme j'ai voulu bifurquer de métier, je suis passée dans le social, le médico-social. Donc là, j'ai fait une formation de moniteur d'atelier qui ne se faisait qu'en cours d'emploi en étant embauchée à l'ESAT des Jardins de l'Honneur. Et après, j'ai fait éducateur technique spécialisé en VAE, validation des acquis d'expérience, si vous connaissez. Donc en fait, il faut être déjà en poste, avoir déjà travaillé, et après on fait sur dossier, on fait un dossier de présentation de tout ce qu'on a fait, bien étayé, et on obtient un diplôme, après un oral aussi. Et après, j'ai aussi passé un diplôme universitaire dans la qualité du secteur médico-social à 50 ans. Donc on passe toujours des diplômes. Mais le diplôme qui me sert le plus actuellement, c'est plutôt le diplôme de moniteur d'atelier et d'éducateur technique spécialisé pour accompagner au mieux. Mais tous servent toujours, hein, en tous les cas.
C'est quoi une journée type ?
Une journée type, ça va vous faire rire peut-être, mais on commence par aller boire le café en équipe parce que je ne travaille pas toute seule. On est des équipes pluridisciplinaires et parfois on ne se voit pas de la journée. Donc on a besoin d'échanger à des moments sur des situations ou avec des collègues sur un emploi du temps, sur une organisation. Des journées type, il n'y en a aucune. Mais soit c'est de l'accompagnement des usagers qui sont déjà en milieu ordinaire où il faut les rencontrer, on a des projets personnalisés pour les accompagner, donc il faut faire un travail avec eux, soit chez eux, soit dans l'établissement d'accueil, soit à l'extérieur. Et on a toutes les réunions institutionnelles, comme on est une grosse institution, tout le travail de partenariat. Il faut aussi, hier j'étais à la journée de l'emploi public, parce que notre rôle c'est aussi de trouver des employeurs. On n'a aucune journée type en fait. Moi j'ai pas une journée type, j'ai un agenda qui se remplit, qui bouge, qui fait. Et puis j'ai pas d'heure fixe non plus, parce que je peux avoir des entretiens à n'importe quelle heure. Souvent, des fois c'est après le travail et ça peut être à 17h pour les usagers. Donc voilà, j'ai pas de, il y a aucune journée type et c'est ça que j'aime moi. J'aime pas la répétition, donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Mais l'objectif, c'est vraiment d'accompagner au mieux les usagers en milieu ordinaire. C'est vraiment le seul objectif de mes journées.
Combien de temps ils peuvent rester dans la structure ?
Alors il y a absolument aucun délai. C'est le départ à la retraite, puisque nous, on est un établissement qui accueille au travail ces gens. Donc, ils peuvent, les gens en situation de handicap, ils peuvent arriver à partir de 20 ans, parfois avant maintenant. Les orientations sont données en général à 20 ans. et jusqu'à la retraite. Et la retraite, comme pour tout le monde, pour certains, s'ils n'ont pas eu un parcours qu'en ESAT, parce qu'il y a des parcours de vie qui font qu'on peut tous se retrouver à un moment ou à un autre dans le milieu protégé pour un incident de parcours psychique, hein, puisqu'il y a la maladie psychique, ça atteint beaucoup de monde. Ou pour tout autre incident de la vie, et donc c'est jusqu'à la retraite. Pour quelqu'un qui a un parcours intégral en ESAT, qui a toujours été en ESAT et qui a un taux de handicap reconnu entre 50 et 80% par la MLPH, ils vont pouvoir partir à la retraite à 55 ans s'ils ont assez cotisé, sinon c'est 62 comme tout le monde, et voire plus comme tout le monde aussi. S'ils ont la capacité, parce qu'il y a aussi certaines déficiences ou handicaps font qu'il y a un vieillissement prématuré, que c'est compliqué pour eux de continuer tard. Alors oui, c'est une passion. Enfin, moi, accompagner les gens en situation de handicap ou en situation de difficulté, ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'est vraiment des métiers passion. Les premiers métiers que j'ai faits dans l'agriculture ou dans le para-agricole, jardin espace vert, puisque je suis arrivée quand même sur un poste de moniteur d'atelier en jardin espace vert, donc où j'alliais mes deux passions. L'accompagnement des gens et le jardin espace vert, qui est une vraie, vraie passion aussi, parce que je suis folle de plantes et d'aménagements. Et donc, mon objectif était d'accompagner dans ma passion les gens. C'est plus facile quand on est passionné aussi d'accompagner et d'entraîner les autres. Et du coup, après, j'ai eu envie de faire autre chose parce que j'ai fait 15 ans moniteur en jardin espace vert, monitrice, pardon. Et du coup, j'ai eu envie de faire autre chose. C'est pour ça que j'ai repris des études, mon diplôme universitaire, parce qu'on m'a proposé un poste. Et après, là, je reviens après 10 ans de qualité où c'est plus administratif, mais je faisais de l'animation aussi. Et je reviens sur un poste d'accompagnement, parce que ça, c'est le cœur de métier. Et c'est ce que j'aime, en fait. Accompagner les gens, trouver des solutions et gérer les situations. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et l'emploi, voilà, on a des emplois dans l'agriculture. C'est des métiers que je connais aussi. Puis même si je ne connais pas, je me jette à l'eau et je demande des explications. Voilà, il n'y a rien de... Tout est intéressant, de toute façon. Tous les métiers sont intéressants.
1, 2, 3. Got me?
L'école du micro d'argent sur Radio MDM avec la classe de première SAPAT, service aux personnes et au territoire. Rencontre avec Valérie Couty, coordinatrice au jardin Nononaire, service du conseil départemental des Landes.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des complications liées à certains handicaps de certains usagers?
Je dirais presque que c'est notre quotidien. Parfois, tout roule et puis un grain de sable peut faire dérailler la machine. C'est toujours complexe, les accompagnements. Parfois, c'est au millimètre. Il faut peser tout ce qu'on dit. Il faut faire attention à sa position, même physique. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Et parfois, ça roule. Bon, moi, je parle assez clairement aux gens. J'exprime les choses. Et c'est en fait une alliance, quoi. Ils savent que je suis là pour eux. J'explique toujours que moi, ma position, c'est d'être à leur côté pour que ça fonctionne au travail. Et souvent, ils ont une grande valeur travail que tout le monde n'a pas. Mais les personnes en situation de handicap ont souvent quelque chose à prouver par le travail et ont vraiment envie de se réaliser au travers du travail. Donc, on arrive souvent à raccrocher. Après, je ne suis pas magicienne. Hein. Parfois, c'est compliqué ou la maladie se complique. Mais souvent, on arrive à rattraper. On glisse, on trouve des solutions. C'est le côté équipe qui est soutenant. On échange avec des collègues. S'il m'arrive de me retrouver dans la voiture et de me dire « je ne sais plus comment je vais faire », ben, j'appelle une collègue, j'échange avec elle, je vois le psychologue. Je vois d'autres professionnels, l'assistante sociale, peu importe, et voilà, et on repart sur une nouvelle idée où des fois je suis à bout d'idées, j'ai plus d'idées, ben je me fais aider. C'est l'équipe pluridisciplinaire qui est soutenante, ou les collègues, parfois les stagiaires même, qui peuvent apporter autre chose, un autre regard, et qui relancent la machine à quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé. Mais moi, je suis vraiment une vraie passionnée, donc j'ai de la force.
Quelles sont les compétences à avoir?
La première compétence, c'est, je ne sais pas, de l'empathie, se mettre à la place de l'autre, faire attention à l'autre, de la patience, il ne faut rien en attendre, il faut être patient, il faut que ça vienne aussi, il faut être à l'écoute, parce que les usagers, en fait, il faut qu'ils décident de leur choix aussi, il faut juste être là en soutien et éclairer. Beaucoup de patience, dirait Clara, qui est là avec moi, qui a fait un stage avec moi.
Qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne qui souhaite faire votre métier ?
Alors moi, je lui conseillerais de faire déjà des stages au maximum déjà dans ce métier pour voir si c'est vraiment leur truc, parce que c'est complexe comme métier. C'est un métier où il y a beaucoup de compétences croisées et d'aller voir, d'aller essayer. On s'y sent bien, on s'y sent pas bien. C'est difficilement descriptible comme ça. Donc il faut tenter, il faut aller voir, il faut aller essayer. Moi j'ai commencé comme ça parce que j'ai toujours eu envie de faire du social. J'ai commencé en mettant la pied dans la porte et en me disant j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas ce que je vaux. J'y vais, j'essaye, des immersions, voilà. Il faut aller voir.
Dans une équipe pluridisciplinaire, on va retrouver quoi comme métier ?
Alors, il y a des éducateurs spécialisés, éducateurs techniques, moniteurs d'atelier pour les professionnels, là, de terrain, je dirais, d'accompagnement en ESAT. Hein. Et après, il y a des psychologues. Parfois, il y a des psychiatres dans les structures. Actuellement, on n'en a pas, mais c'est compliqué d'avoir des psychiatres en ce moment. Assistante sociale, CESF, conseillère en économie sociale et familiale. Et puis, il y a d'autres professions. Il peut y avoir des animateurs aussi dans nos structures. Il y a des postes d'animation. Voilà, c'est à peu près. Après, il y a tout le staff qui est le secrétariat de direction, cadre socio-éducatif. Hein. Je ne vais pas parler des cadres socio-éducatifs, mais on a aussi des cadres au-dessus. Voilà, c'est à peu près les métiers qu'on peut retrouver.
Combien y a-t-il de places dans la structure ?
Pour les ouvriers, on a une offre de service, ça veut dire qu'on est financé pour 67 équivalents temps plein. ETP, nous on parle en ETP, équivalent temps plein. Mais en fait, ça peut être le double parce que les gens qui sont, comme on parle en équivalent temps plein, deux personnes à mi-temps font un ETP. Donc ça peut être jusqu'au double, voire plus. On peut accompagner 120 personnes si on n'a que des personnes à temps partiel, parce que le handicap fait que beaucoup de gens sont à temps partiel. Alors pendant longtemps, les établissements n'ont pas beaucoup aimé des temps partiels, parce que comme on peut le voir, si soit on a 67 personnes, soit on en a 120, c'est pas la même gestion d'accompagnement, parce qu'il faut se casser la tête pour les plannings, il faut se casser la tête pour tout. Mais maintenant, c'est la réalité aussi. Beaucoup de gens ont besoin d'avoir d'autres choses à côté de leur temps de travail. Et on adapte de plus en plus. Nous, on aménage énormément les deux temps partiels. L'objectif, c'est le meilleur accompagnement pour les usagers qui priment, quoi. S'ils ont besoin de temps partiel, effectivement, on les accorde.
Quelles sont les principales missions ?
Trouver des employeurs, ça c'est une mission importante, mais parfois ils arrivent tout seuls. Ils ont entendu parler du dispositif, faire connaître les dispositifs, parce que c'est des dispositifs quand même qui ne sont pas connus dans les entreprises. On va dans les manifestations où on peut rencontrer des entreprises. Travailler avec France Travail maintenant, parce que tout le monde maintenant va s'inscrire à France Travail, qu'on ait un handicap ou pas pour le travail. Et après, France Travail va nous réorienter les gens. Donc c'est beaucoup de travail de réseau et de partenariat. Hein. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'on ne travaille pas tout seul. On travaille avec le soin aussi. Donc beaucoup de temps de travail autour. Et puis beaucoup de temps aussi de travail avec les gens, parce que parfois aussi on fait un travail qui est un travail qui n'est pas reconnu, parce qu'on accompagne des gens mais on ne sait pas si ça va marcher le travail, donc on les accompagne, on vient en soutien d'étayage, et soit ils vont rentrer dans notre établissement, soit ils vont pas rentrer, mais je dirais que peu importe, si on a réussi à les accompagner vers le travail, c'est l'important. Les missions principales, c'est ça. Et parfois, recueillir la parole des usagers, essayer de faire en sorte que tout fonctionne. Voilà, c'est la mission vraiment principale au travail. Alors, c'est un métier qui n'est pas très reconnu. En plus, les métiers de l'accompagnement au travail sont peu connus. Les éducateurs techniques spécialisés, il y en a 5000 en France dans le métier que je fais exactement. Et souvent, on est très, très mal reconnus. Comme beaucoup en ce moment, on parle d'attractivité des métiers dans le médico-social. Mais si on n'est pas là, ça ne tient pas les trois quarts du temps. Et vraiment, il faut être investi, il faut avoir envie, il faut être toujours disponible. Enfin, moi, je réponds au téléphone parfois, c'est un peu trop, mais... Je réponds au téléphone quand je vois que c'est quelqu'un qui appelle jamais et qui m'appelle, je réponds parce que je sais qu'il y a vraiment quelque chose. Il faut être assez dispo, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est vrai que ça, c'est pas du tout reconnu. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Continue quand même. Mais ce serait bien que ce soit vraiment bien reconnu, parce que c'est vrai que ça aiderait aussi à ce que les gens aient envie de faire ces métiers. Là, c'est pas tellement le cas. Les infirmières ont été reconnues, le sanitaire a été beaucoup reconnu. On a été un peu les parents pauvres, le médico-social et le social encore plus.
1, 2, 3, got me?
L'école du micro d'argent, les ateliers de radio MDM avec le lycée professionnel agricole de Mugron. Merci aux élèves de la première SAPAT. Merci à Géraldine Coulon, professeure en éducation socioculturelle. À Jeanne Druga, professeure en éducation sociale et familiale. À Valérie Couty, coordinatrice au jardin de Nounère, service du conseil départemental des Landes. Prise de son, réalisation Jeannot. Mixage, montage, Lucas Jarmougéan. L'école du micro d'argent sur les ondes et en podcast sur le www.radio-mdm.fr.
Got me?